Alors, je voudrais commencer par vous remercier, Hervé Joubert-Laurencin, d'être venu à Bordeaux aujourd'hui pour nous présenter le dernier ouvrage dont vous vous êtes occupé. C'est un véritable plaisir que de vous accueillir aujourd'hui et nous vous en remercions d'autant plus que vous étiez hier à Palerme pour un colloque important, que vous êtes rentré tard hier soir, que vous avez enchaîné ce matin avec un colloque à Paris qui est en cours actuellement sur le sujet objet qui vous intéresse et que vous y retournerez pour les jours suivants puisque ce colloque se poursuit. Donc merci beaucoup d'avoir trouvé le temps de venir nous présenter cet ouvrage. Alors, en tant qu'enseignante en études cinématographiques ici, je suis souvent amenée à vous citer, mais plus en tant que spécialiste de Pasolini. Et donc là, j'ai compris que dorénavant, je ne pouvais plus me passer de vous présenter comme spécialiste de Pasolini et de Bazin. Je vais rappeler quelques ouvrages, ce que vous avez publié auparavant, puisque vous êtes d'abord occupé beaucoup de Pasolini, justement. Vous avez travaillé sur tous les aspects de Pasolini, ou en tout cas des aspects très divers de Pasolini, hein, et de son œuvre, bien sûr, donc sur son cinéma, sur son œuvre poétique, sur son théâtre aussi. Vous avez aussi traduit et écrit sur ses textes, sur le cinéma, sur la peinture, ou encore contre la télévision.
C'est-à-dire sur la politique.
Comment ?
C'est-à-dire sur la politique.
C'est-à-dire sur la politique. Et donc voilà, donc c'est pourquoi je vous présente d'habitude à mes étudiants comme le spécialiste de Pasolini. Par ailleurs, vous avez également publié des ouvrages sur le cinéma d'animation. Et c'est assez rare de la part des universitaires français en études cinématographiques pour être relevé. Donc je voulais rappeler notamment votre travail sur les films de Miyazaki. Et puis, bien sûr, il y a Bazin. Alors, vous avez commencé, ça fait longtemps que vous travaillez sur les textes de Bazin. J'ai vu que vous aviez déjà publié en 2008 un ouvrage collectif donc, que vous aviez dirigé avec un collègue américain, Dudley Andrew, un professeur à Yale. Donc, un ouvrage collectif intitulé « Ouvrir Bazin », donc « Opening Bazin ».
Opening Bazin pour le premier, et il a été refait en français.
Voilà, et ensuite qui a été publié ensuite en français également. Vous aviez également publié Le sommeil paradoxal écrit sur André Bazin aux éditions de l'Œil. Ça, c'était en 2014. Et puis aujourd'hui, donc, ces deux volumes regroupant l'intégrale des textes d'André Bazin présentés dans ce volume.
C'est donc le réveil d'André Bazin après son sommeil.
Voilà. Ah oui, le sommeil paradoxal et le réveil. D'accord.
C'est le sommeil de Bazin.
Oui, d'accord. Alors, par ailleurs, je voulais signaler aussi qu'on a pu vous lire ou qu'on peut vous lire dans des revues de cinéma telles que Positif, Vertigo, Les Cahiers du cinéma ou encore Trafic et bien d'autres, mais bon, je ne les cite pas toutes. Et bien sûr, je voulais préciser aussi, avant de vous laisser la parole, que vous étiez que vous êtes professeur d'esthétique et d'histoire du cinéma à l'Université Paris-Nanterre. Alors maintenant que je vous ai présenté, je voulais vous demander de nous présenter André Bazin.
Avec plaisir. Bonjour. Merci d'être là et de l'intérêt que vous portez à André Bazin, que vous connaissez sous le nom d'André Bazin et non pas Hervé Bazin, parce que Truffaut a dit un jour « Nous aurons gagné quand les gens qui veulent parler, qui pensent à Hervé Bazin diront André Bazin à la place ». On n'en est pas encore là, il y a encore des... Mais André Bazin, lui, c'est le critique de cinéma par définition, en quelque sorte. Hein. Étrangement, c'est presque... Il y a quelque chose de mythologique, et cette mythologie peut-être a participé à l'empêchement, en quelque sorte, de ce livre avant aujourd'hui, parce qu'au fond, c'est quand même très, très tardif. Hein. André Bazin est mort en 1958. Donc, et ce livre représente... vraiment tout ce qu'il a écrit. Il a commencé en 1943, fin 43, pour son tout premier texte sur le cinéma, jusqu'à fin 58, puisqu'il est mort le 11 novembre 1958, mais il n'avait que 40 ans, parce qu'il est mort de leucémie. Et il était déjà tuberculeux, il était malade. D'ailleurs, quand on voit les quelques images qu'on a de lui, sont très frappantes. Il est très maigre, il a l'air très ascétique comme ça, mais, et c'est quelqu'un qui effectivement allait tout le temps au cinéma, était tout le temps en train d'écrire. Hein. Quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il n'arrêtait pas de publier des textes comme il était journaliste et qu'il allait sans cesse au cinéma. Donc il ne s'est pas beaucoup soigné, il n'a pas beaucoup soigné sa tuberculose. Il a été arrêté pendant un an et demi dans sa vie en 1949, enfin fin 49. En 50, toute l'année 50 et la moitié de l'année 51, par exemple, n'existe pas dans ce livre. Il n'y a que quelques articles parce qu'il a été dans un sanatorium et ensuite il a pu aller en cure plus tranquille en montagne. Mais il s'est arrêté pendant un an et demi. Donc, il fait partie de ces écrivains qui ont été approchés la montagne magique aussi, hein, qui ont été tuberculeux comme Roland Barthes, par exemple. Hein, ou, Thomas Mann, enfin, il y en a bien d'autres, mais il s'est sans doute ressourcé d'ailleurs, puisqu'il dit dans une lettre qu'à cette époque, il en a profité pour lire beaucoup de livres qu'il n'avait pas pu lire en étant précisément depuis 1944, depuis la libération de Paris, en étant un critique de cinéma et faisant un travail ininterrompu dans les journaux, dans les revues, et pas seulement. Hein. Donc Bazin était... Et donc, par définition, le critique, c'est peut-être le critique de cinéma le plus célèbre du monde. Probablement. J'en vois pas d'autres. Il faudrait demander à des civilisations plus lointaines ou qu'on connaît mal s'il y a un Japonais qui serait aussi important ou, je sais pas, d'un pays qu'on ne connaît pas. Mais sinon, on devrait le savoir, puisque au fond, le cinéma est toujours lié à des puissances industrielles. Hein. C'est un art industriel, le cinéma. Donc, en gros, on doit le savoir à peu près. C'est vraiment le plus célèbre dans l'histoire. Peu de critiques de cinéma sont connues. Je m'en suis rendu compte parce que le métier n'est pas un métier qui rend célèbre. C'est un métier qui sert. Hein. De même, moi, je suis en train de servir André Bazin. Je suis très heureux de le faire, d'ailleurs, de pouvoir le faire connaître. Mais Bazin n'a fait que servir les films, que travailler pour les autres, au fond. Et donc, ça ne rend pas spécialement célèbre. Mais c'est tout de même le seul, je le fais remarquer dans l'introduction aux deux volumes, c'est quand même le seul qui a bénéficié d'une biographie, finalement. C'est le seul critique de cinéma que je connaisse sur lequel on a écrit une biographie. Donc, on a cité le nom de son biographe tout à l'heure, c'est Dudley Andrew. Mon collègue, c'est vraiment le pionnier des études sur Bazin, qui s'est intéressé à Bazin dans les années 70, quand il était un professeur dans l'Iowa, et que Truffaut avait rencontré d'ailleurs. Et Truffaut a lu sa biographie, qui était issue de sa thèse, qui est sortie en 1978 en américain et en anglais, quoi, aux États-Unis. Et ensuite, elle a été traduite en 83 grâce à Truffaut, qui a dit, OK, du cinéma, vous devriez faire une coédition avec la Cinémathèque pour publier le... Parce qu'il y a quelqu'un en Amérique qui s'intéresse à Bazin. Il faut aller assez loin pour trouver quelqu'un qui va s'intéresser à notre héros national, au fond, puisque c'est... Le cinéma en France a une importance démesurée hein, par rapport à d'autres pays du monde. Paris a une importance très grande parce que beaucoup de films, presque toute la production des films passe en quelque sorte quand on accumule, finit par passer un jour à Paris. D'où l'importance d'être critique de cinéma à Paris. C'est au fond, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, ça doit l'être beaucoup moins, mais ça l'était beaucoup à cette époque-là. C'est-à-dire que c'était un lieu où, si on suivait le cinéma, on suivait en quelque sorte un peu tout le cinéma. Voilà, donc Bazin a vraiment été complètement l'homme de ce métier, par définition. Et son histoire n'était pas tout à fait celle-là. C'est pas l'histoire d'un journaliste classique. C'est quelqu'un qui, au contraire, a une formation très académique, qui aurait dû devenir instituteur, tout simplement. Alors, il est lié un petit peu à la pensée spirituelle. Moi, je trouve qu'on en fait un peu trop souvent un spiritualiste qu'il n'est pas, parce que c'est un penseur plutôt très, très matérialiste, je trouve, très laïque aussi. Mais il a fait ses études chez les frères, tout de même. Ses parents devaient être plus croyants. Et donc, il est rangé chez les chrétiens de gauche, si vous voulez, Bazin. Mais très jeune, il a été élève instituteur. Donc, il est né à Angers. Il a été élève instituteur à l'école normale de garçons de La Rochelle, donc pendant 3 ans. Un jour, avec une collègue américaine qui, comme moi, voulait voir les églises romanes de Saint-Onge que Bazin voulait filmer à la fin de sa vie. C'est une autre histoire, in extremis, juste avant de mourir, Bazin aurait voulu faire un film. C'est ce sur quoi, avec ma compagne, nous avons réalisé un film documentaire, d'ailleurs, sur ce projet étrange qui n'a jamais existé, parce qu'il est mort précisément au moment où il aurait pu se mettre à tourner un film, mais ils nous sont parvenus des photos de repérage et des éléments. Donc la Saint-Onge. C'était juste à côté de La Rochelle. Hein. Donc il a connu les églises romanes dans la campagne de la Saint-Onge. Il y en a près de 500 dans deux départements. C'est foisonnant. Hein. L'école romane Saint-Angès est moins célèbre que l'école bourguignonne, mais elle est très importante. Et donc, la première fois que j'ai voulu aller les voir, on a fini par hasard avec une collègue américaine de trouver... d'entendre parler de l'école normale. On n'avait pas pensé à l'école normale de Bazin et elle était en train de fermer. C'est-à-dire l'État était en train de la vendre puisque c'était devenu un UFM et après l'UFM, c'est devenu la mastérisation. C'est-à-dire qu'on a petit à petit fait disparaître le principe même des écoles normales qui, pendant un siècle, ont été vraiment la cathédrale de la laïcité et la formation des instituteurs qui était très, très, très importante dans la France avant, mais encore dans l'après-guerre. Et Bazin, c'est l'avant-guerre. Et donc, tout ça pour vous dire qu'on a rencontré le directeur de l'école qui allait fermer, du moins dans ses locaux, et qui nous a montré le grand cahier noir sur lequel toutes les notes étaient écrites depuis 1913, je crois, jusqu'en 1968, où il était écrit sur la page « Après les événements de 68, après les événements, les élèves ne seront plus notés. » Ça s'arrête en 68, juste après mai 68. Mais on a donc eu les notes de Bazin, et c'était le premier de la classe. Quoi. Donc Bazin est le premier de la classe pendant 3 ans, ce qui explique qu'on l'a poussé à faire une 4e année préparatoire, au fond. Et ça a donc été une sorte, un peu comme un ascenseur social, comme on dit, au bout de 3 ans, plutôt que de devenir seulement instituteur, on lui a proposé d'aller à Versailles, suivre encore un an de plus pour faire une sorte d'école préparatoire à l'entrée à Normale supérieure, donc Normale supérieure de Saint-Cloud. Et il a été pris illico au bout d'un an. Donc il a fait 4 ans d'école normale, puis ensuite... plusieurs années à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, où là, du coup, il aurait dû devenir... Il avait une carrière toute tracée de professeur d'école normale, de professeur, d'inspecteur de l'éducation nationale. Il a vraiment été formé à la pédagogie et à tous les... Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il a un esprit très logique, assez technique aussi, connaissant la biologie, enfin, beaucoup de choses. Et ce qui explique le nombre de métaphores très, très impressionnantes chez Bazin, métaphores médicales, biologiques, logique de toutes les sciences et arts, et donc avec cette curiosité intellectuelle permanente pour tout. Mais sauf que quand il est arrivé à Normale supérieure, enfin à Saint-Cloud, c'était la drôle de guerre. Voilà. Donc il n'a eu aucune scolarité normale à Saint-Cloud. Il a été mobilisé. À Bordeaux. Voilà. Donc la vie de Bazin commence à Bordeaux, d'une certaine manière. Tout d'un coup, je me suis dit, mais enfin, je viens à Bordeaux et il y a quelque chose avec Bordeaux. Et c'est très important. C'est-à-dire que quand il a été mobilisé, il a rencontré un garçon de son âge qui lui a fait connaître le cinéma, tout simplement. C'est-à-dire, c'était. Alors, d'ailleurs, il faudrait peut-être rechercher s'il y a des traces de ça. C'est dans la biographie de Dudley Andrew. C'est quelqu'un qui était le fils de propriétaire de cinéma, un ou plusieurs cinémas de Bordeaux. Et donc, qui avait des entrées gratuites et qui voyait autant de films qu'il voulait, qui a amené son copain Bazin, qui a commencé à regarder des films, alors qu'il n'était pas du tout cinéphile jusque-là. Donc ça a commencé ici. Et ensuite, à Paris, puisqu'il a été démobilisé, il s'est retrouvé à Paris sous l'occupation. Et cette fois, c'est le jeune Alain Resnais qui a rencontré Bazin et qui raconte ça de façon très émouvante dans un interview à la radio un jour. Dit que c'était un jeune universitaire, enfin, il dit jeune universitaire, c'est-à-dire un jeune étudiant, qui avait des idées très péremptoires sur le cinéma, et au jeune Resnais, ça paraissait abusif parce qu'il avait vu très peu de films. Donc Resnais, c'est-à-dire qu'il fallait voir beaucoup de films pour en parler. Et finalement, il lui a paru très, très sympathique. Enfin, Resnais en fait un portrait très, très, très émouvant, où il dit que pour lui, c'était... il dit un truc incroyable, hein, d'ailleurs. Resnais dit que pour moi, c'était Saint-François d'Assise. Voilà. Resnais dit un truc très bizarre, un peu un truc de cinéaste. Il dit, si on devait se représenter Saint-François d'Assise, voilà, c'est pour moi, c'est la tête de Bazin. Voilà. Donc, Bon, il parlait de ça, du côté humain de Bazin, que tous ceux qui l'ont connu ont décrit comme quelqu'un d'extrêmement humble, extrêmement agréable, extrêmement serviable, toujours s'occupant, toujours aimant beaucoup les animaux. Hein, puisque c'est quelqu'un qui, depuis son enfance, adorait les animaux, donc qui a vécu avec des perruches, des chiens, des chats, et jusqu'à des perroquets, et jusqu'à ramener un perroquet du Brésil. Il y a un texte très beau qui s'appelle « Comment peut-on être Coco ?», qui est le récit de son voyage au Brésil, où il en profite pour ramener un perroquet, avec tout ce que ça implique de découverte du pays, pour avoir des autorisations pour sortir du pays, etc. etc. Voilà, donc c'est un très beau texte, presque d'écrivain, de description d'une petite communauté de cinéastes français qui sont invités dans un festival, etc. Donc il raconte tout ce qui se passe dans l'avion. Voilà. Et puis jusqu'à un alligator bébé, voilà. Mais sa femme, quand l'alligator a grandi, elle lui a demandé de l'envoyer dans un zoo parce que c'était devenu insupportable. Mais bon, voilà, que vous dire que j'oublie.
Peut-être il a été aussi animateur de ciné-club. Voilà. Je crois que ça a été très important aussi.
Il y a toute une facette que j'ai pas dite. Mm-hmm. C'est-à-dire que donc brusquement, Bazin était là pour devenir une disons un professeur, et un érudit, un professeur ou un inspecteur. Enfin, et puis tout d'un coup, il découvre le cinéma, et pendant toute l'occupation, il n'a fait que ça. Donc je ne sais pas s'il était zazou, mais en tout cas, il a l'air d'avoir eu une vie comme ça, un peu presque de bohème, et en voyant tous les films possibles sans arrêt, et se mettant à écrire sur les films déjà en tant qu'étudiant. Donc à la Maison des Lettres, avec Pierre-Aimé Touchard. Et, voilà. Donc ses premiers articles sont des articles dans des revues d'étudiants, très peu connus, ceux qui ont été publiés sous l'occupation. Et puis, donc, tout est bouleversé, et puis ça ne s'est plus jamais arrêté. C'est-à-dire qu'il n'est jamais revenu à son premier travail possible. Il n'a jamais enseigné, il n'a jamais été instituteur. Il a raté d'ailleurs l'oral du professorat, donc on raconte qu'il a raté l'oral du professorat parce qu'il bégayait, parce que Bazin était un bègue. Hein, mais j'explique aussi que c'est un certain type de bègue, c'est un bègue par troncation et pas par répétition. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de bégayer. On bé, ou alors on bégaye. Donc voilà, Bazin parle du cinéma. Vous voyez, et on l'entend très bien à la radio, on entend très bien son bégaiement, qui devait être très spectaculaire. Il y a, chaque fois qu'on a des témoignages de gens qui ont entendu des conférences de Bazin ou des discussions en ciné-club, se rappellent de cette espèce d'effort surhumain qui semblait de se vaincre toujours, vaincre une timidité ou quelque chose qui l'arrêtait, et qui était toujours vaincu et qui était... très fascinant, parce que c'était toujours très passionnant ce qu'il disait, et on était suspendu à ses lèvres, quoi, parce qu'on croit toujours qu'il ne va pas pouvoir parler, puis tout d'un coup ça arrive. Voilà. Donc il y avait quelque chose sans doute d'assez spectaculaire. Donc ça a été connu par beaucoup de gens, parce que Bazin a eu une autre vie que celle d'écrivain. Donc là, ça c'est une vie de 15 millions de signes et de 3000 pages d'écriture. Donc Bazin est un écrivain, et il a écrit beaucoup et très bien, mais il y a toute une vie qui n'est pas dans ce livre. Et je ne sais pas d'ailleurs comment on pourrait... Il y a une tradition orale de Bazin qu'il faudrait tenter de reconstituer. Mm-hmm. Il faudrait vraiment que beaucoup d'historiens se mettent au travail, et je ne suis pas sûr qu'on retrouve des traces très profondes. Mais Bazin a encore plus que tout ce qu'il a écrit, Bazin a parlé et discuté. C'est-à-dire que Bazin était en même temps, et ça explique évidemment beaucoup que son écriture soit très très rapide et très efficace, c'est que tout était préparé en quelque sorte par des discussions permanentes. Et ça, c'est l'aspect éducation populaire. Bazin est un des acteurs majeurs de l'éducation populaire en France dans l'après-guerre, à partir de 1944. Donc dès que la libération de Paris arrive, il milite vraiment pour... comment dire, on peut pas dire plus que de fonder une société fondée sur la victoire contre le fascisme, c'est-à-dire essayer que ça ne revienne jamais et qu'on éduque toute la population pour que la population devienne plus intelligente, plus formée, et une pensée politique et une pensée citoyenne, et puisse vivre une vie normale. Donc vous voyez que les idéaux de 44-47, c'est dur aujourd'hui. C'est le moment où on crée la sécurité sociale. Et Bazin est en plein dedans. Hein. Donc, il a travaillé d'ailleurs assez proche des communistes sans jamais être communiste. Il était même tout à fait anti-stalinien. Il a été vraiment attaqué en 1950 pour un texte dont on donne un petit peu plus que celui que ce qu'on connaissait jusqu'ici, parce qu'on donne l'ensemble, dans Esprit, qui est sur le mythe de Staline dans le cinéma soviétique, qui est un texte très moqueur des films staliniens qui mettaient Staline en personne dans les films. Et donc, il y a eu beaucoup de polémiques contre lui. Il a été violemment attaqué par les communistes, la presse communiste à l'époque. Donc, il n'était pas communiste au sens de parti, ni même compagnon de route du parti, mais compagnon véritable. C'est-à-dire qu'il il présentait des films dans les usines entre midi et 2 heures, de même qu'il pouvait présenter des films dans des groupes tout à fait catholiques. Mais il était dans les deux partis. Et là où il travaillait, c'était travail et culture et peuple et culture. C'est-à-dire avec, par exemple, l'un des secrétaires qu'il a eu, qui est venu travailler avec lui parce qu'il était là, s'appelait Chris Marker. Donc, il travaillait avec Chris Marker, entre autres, et il dirigeait la Fédération des ciné-clubs de travail et culture pour toute la France. Donc, Bazin a eu un travail d'animation culturelle extrêmement fort. Et il y a donc toute une partie de Bazin qui est de diffuser le cinéma par des discussions et des ciné-clubs. Mmh. Et il était donc directeur de beaucoup de ciné-clubs. Voilà. Alors après, c'est toute l'aventure. Voilà, ça, c'est en gros la vie de Bazin. Et puis, toute l'aventure ensuite n'est que de discussions sur des films, de sorties des films, de défense de certains films, d'écriture dans des revues, dans des journaux. Et puis, dès qu'arrive le 1951, justement, mmh. quand il revient d'une longue maladie, là, c'est toute une nouvelle France qui se met en route. C'est-à-dire, c'est le début du nouvel observateur, qui s'appelle France Observateur, l'observateur d'aujourd'hui, puis aujourd'hui, le nouvel Obs. Il est avec Doniol Valcroz, qui est aussi le cofondateur des Cahiers du cinéma, il est le critique de cinéma, jusqu'à sa mort, avec Doniol Valcroz. Et en 51, c'est aussi la naissance des Cahiers du cinéma, qu'il est ensuite co-rédacteur en chef avec Doniol Valcroz, donc là encore jusqu'à sa mort. Et puis c'est aussi la fondation du futur Télérama, hein, Radio Cinéma Télévision. Et Bazin, un ami vient le chercher pour. Et il est déjà un peu connu, même vraiment connu comme le grand écrivain de cinéma. Et donc on vient le chercher comme ça pour sa réputation aussi. Et il devient le critique, celui qui tient la chronique de cinéma du futur Télérama. Voilà. D'où l'idée du colloque. Qu'on est en train d'organiser avec des amis et qui se passe à Paris en ce moment. Et samedi matin, mon idée, c'était de rassembler les Bazins, ce que j'ai appelé les Bazins, c'est-à-dire le critique de cinéma qui aujourd'hui travaille au Parisien Libéré, celui qui travaille au Nouvel Observateur, celui qui travaille à Télérama, celui qui travaille à Esprit, celui qui travaille au Cahier du cinéma, parce que ces 5-là, en gros, c'est ce que faisait Bazin, à lui tout seul, pendant de 51 à 58, au moins, pour toutes les revues. Voilà, alors on ne les aura pas tous, mais il y en a plusieurs, notamment Olivier Mongin, qui viendra pour Esprit et d'autres. Voilà.
Merci, c'est très bien. On peut alors passer maintenant justement au volume, à ces deux volumes que vous nous présentez aujourd'hui, que vous nous apportez aujourd'hui.
Je ne les ai pas apportés physiquement, voilà. Parce que j'ai trop mal au dos pour ça. Ça me ferait mal au dos. Je ne porte plus rien.
Et parce que justement, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié en commençant à lire, c'est que vous avez choisi une publication par ordre chronologique, ce qui permet d'avoir vraiment le rythme de l'écriture, ce rythme intensif, en fait, d'écriture, dans les différentes publications, revues ou journaux que vous avez indiqués. Et on a l'impression de suivre un homme à l'écriture jour après jour, en se rendant compte justement de cette prolifération, de cette écriture proliférante, très vive. Voilà. Et alors, je voulais que vous nous disiez deux mots sur les enjeux, parce qu'il y a quand même des enjeux très forts dans cette publication aujourd'hui, de l'ensemble de ces textes. Notamment la nécessité de lever un malentendu ou des malentendus sur ce qu'a pu écrire Bazin, justement. Mmh. Donc voilà, je voulais que vous nous disiez un peu pourquoi il était important et nécessaire de tout publier aujourd'hui.
Ouais. Alors, il y a deux éléments dans votre question. D'un côté, comment ça se présente. Si vous l'achetez, vous verrez, mais vous aurez du temps avant de le lire en entier. Donc ça se présente comme, effectivement, quand la décision a été prise de tout garder, de tenter le coup avec un éditeur quand même absolument unique, hein, je ne connais pas d'autres éditeurs capables de se lancer dans une aventure comme celle-là, qui quand même risquait de les mettre en faillite, simplement en le faisant, tellement c'est énorme. Ça fait 4 ans qu'on travaille à ça. Et beaucoup de gens ont travaillé vraiment de nuit et jour, là, d'arrache-pied, cette dernière année. Là, c'est affolant pour arriver à le faire correctement, puisque Macula, en plus, est un éditeur incroyablement... Suisse, j'allais dire,
exigeant,
sérieux. Enfin, il y a un nombre de relectures très, très impressionnant que j'avais découvert en faisant déjà un très beau livre en 2 volumes sur Hackathon de Pasolini, qui était la reprise du livre qu'avait publié Pasolini en 1961 à la sortie de son film, avec un autre volume de choses autour. Et donc déjà là, j'ai vu qu'on travaillait très, très sérieusement, quoi. Auparavant, j'avais connu que, je crois, Les Solitaires Intempestifs à Besançon, pour faire des livres sur Pasolini, qui étaient aussi exigeants. Donc plutôt des petits éditeurs que des grands éditeurs, au fond, parce que même s'il y a des gros moyens avec les gros éditeurs, aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de possibilités commerciales de dire qu'on prend assez de temps, on paye assez de gens, on passe autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que ça soit parfait. Ce n'est pas un gros éditeur qui peut faire ça, au fond. Donc c'est un paradoxe, d'ailleurs. Mais c'est mieux que la Pléiade, quoi, pour vous dire. Ce n'est pas pour me vanter. Hein. Ce n'est pas pour vanter, mais d'une certaine manière, la Pléiade ne fait pas d'œuvre complète. Alors, on m'a fait remarquer, je dis, ça fait longtemps que la Pléiade ne fait plus d'œuvre complète, mais en fait, on m'a fait remarquer que ça n'avait jamais été le cas. Bon, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a quand même certains auteurs qui ont des œuvres complètes, absolument complètes, mais la plupart des Pléiades sont pas complètes. Donc là, on a fait une sorte de chose expérimentale en prenant des œuvres absolument exhaustivement. Et alors, à ce moment-là, quand on savait qu'on allait faire ça, après avoir tout essayé en se disant on pourrait organiser comme ça, thématiquement, là, on s'est aperçu que quand on a tout, ce qui est le plus beau, le plus magnifique, c'est la chronologie. C'est strictement chronologique, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du mouvement, de l'ordre du souffle, quoi. C'est presque corporel, hein. On sent la... Et alors, vous l'avez dit, il y a des vitesses aussi. C'est pas tellement la prolifération que finalement, parce que moi aussi j'ai eu cette impression de prolifération, et quand on en parle, on a tendance à dire ça. En réalité, si on fait les comptes, n'importe quel critique de cinéma qui travaille dans un quotidien produit autant de textes, voire plus. Si Bazin avait vécu 40 ans, on n'aurait pas 2700 textes, on en aurait 10 000. Et je pense qu'un critique de cinéma normal qui fait son papier tous les 2 jours, s'il écrit jusqu'à 70 ans, c'est beaucoup plus gros que ça. Donc, ce n'est pas tellement une prolifération qu'une qualité d'écriture qui fait que, même quand Bazin écrit une petite colonne pour Le Parisien Libéré qui fait 700 signes, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Et beaucoup d'exemples le montrent en train d'écrire sur le même film, pour un quotidien, pour un hebdomadaire, pour un deuxième hebdomadaire, puis ensuite y revenant de façon encore plus sérieuse dans les cahiers du cinéma, par exemple un mensuel avec le recul et ce qui s'est déjà écrit, ce que les autres ont écrit, les discussions que ça a engendré, et puis enfin des revues comme Esprit, où là on a des espèces d'immenses dissertations qui aujourd'hui ne seraient pas publiées en revue. Il n'y a plus la place, mais seraient des petits opuscules, seraient des petits livres. Aujourd'hui, l'édition de cinéma, c'est comme ça. Moi, je pense qu'historiquement, il y a eu un passage, un moment où les revues étaient très, très importantes. Aujourd'hui, elles le sont encore, mais plus du tout de la même façon que dans les années 60, depuis les années 50 jusqu'aux années 2000, disons. Mais depuis, on a une augmentation du nombre d'éditeurs et de livres sur le cinéma qui est très impressionnante. Et donc, les grands articles ou les grosses dissertations ou les grands essais deviennent des petits livres. Donc il y a beaucoup d'articles là, de Bazin, qui sont comme des petits livres. D'ailleurs, il y a aussi des petits livres à l'intérieur du livre, puisque Bazin a publié 2 livres de son vivant, seulement 2, un en italien chez un éditeur italien et l'autre en français, c'est le Orson Welles. Première version, pas celui qui était dans le commerce aujourd'hui, qui était une deuxième version. La première version, moi, je la trouve très, très belle. Elle a une unité plus forte que la deuxième, je trouve. Voilà. Et donc, cette idée de rythme, en quelque sorte, hein, de rythme vital, on l'a accentuée par le fait qu'on a coupé le livre pour que le lecteur ne soit pas devant une masse insupportablement... monolithique, et donc l'idée ça a été de le couper en 24 morceaux, comme il y a 24 heures dans une journée, comme il y a 24 images dans une seconde de cinéma, surtout 24 photogrammes dans une seconde de film, originellement. Et donc, il y a 24 parties qu'on a appelées des scansions, parce que justement, c'est comme la scansion d'un poème, au fond. C'est le poème d'une vie, hein, c'est un souffle. Et donc, les textes qu'on m'a demandé d'écrire, pour quand même qu'il y ait un peu de texte différent, un peu une introduction à ces masses de textes, on les a appelés des scansions. Puis les chapitres aussi, on les a appelés des scansions. C'est-à-dire, c'est ni des chapitres, ni des... c'est pas non plus des plateaux comme dans 1000 plateaux de Deleuze et Guattari, mais c'est entre le plateau et le chapitre, si vous voulez, les scansions, quoi. Voilà. Et alors après, on s'est mis d'accord, d'ailleurs assez tardivement, sur le nombre de signes que je devais produire, ce qui est bien que mon été a passé à réécrire les scansions, qui finalement sont de 10 000 signes. Donc tout d'un coup, je me suis trouvé avec 240 000 signes d'un coup à écrire en plus. Enfin, c'était déjà commencé, mais bon. Et voilà. Et donc, elles sont totalement inégales. C'est pour vous expliquer comment ça a été construit. Totalement inégales, aléatoires. Il n'y a pas le même nombre. On n'a pas coupé tous les 10 ans, ou tous les 10 textes, ou tous les 1000 textes, ou tous les 100 textes, puisque ça n'aurait aucun sens. Elles sont coupées, en gros, selon mon bon vouloir, quoi. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai passé beaucoup de temps à me dire, on pourrait couper là, on pourrait essayer, comme ça. Donc, tantôt, c'est 150 textes, tantôt, c'est 20 textes, tantôt, c'est 2 ans, tantôt, c'est 4 mois. Ça dépend le rythme aussi d'écriture. Et donc, ça n'a pas de sens d'un point de vue... C'est du montage, hein. Mais ça n'a pas de sens... oui, puis maintenant, je peux le dire, je suis devenu cinéaste, donc c'est tout nouveau pour moi. Je suis un jeune cinéaste, hein. Je viens de faire un film... À deux, on vient de faire un film, donc on se dit que, alors on peut parler de montage comme des cinéastes. Bon, et donc le livre est monté, quelque sorte, mais il n'est pas monté dans la macrostructure, c'est-à-dire ça n'a pas de sens, les relations entre les parties n'ont pas beaucoup de sens, sauf peut-être avec les titres des scansions, parce qu'on a des titres en plus. Donc il y a 24 titres des morceaux de la vie de Bazin, de César, mais, alors ça peut avoir du sens, hein. Il peut y avoir des choses qui se répondent dans les titres généraux, qui sont toujours des titres pris d'une phrase de Bazin, si possible, belle et frappante. La robe sans couture de la réalité, le cinéma, je ne sais plus, il y en a plein, je ne sais plus par cœur. Mais là où ça a du sens en termes de montage, et où ça peut vouloir dire quelque chose d'avoir coupé comme ça, parce que ça pourrait aussi ne rien vouloir dire, et on a le droit de penser que ça ne veut rien dire, et que de toute façon c'est une façon pratique de couper le livre. Si ça veut dire quelque chose, ça peut l'être dans le montage fin, c'est-à-dire... à l'endroit où on coupe sur un plan et on coupe à tel endroit du plan, tel endroit du son ou tel endroit de l'image. Et là, alors, ça peut avoir un peu plus de sens. C'est-à-dire que ça fait ressortir un texte qui, tout d'un coup, prend du sens parce qu'il est au début d'un chapitre. Voilà, au début d'une scansion. Voilà, c'est plutôt cet ordre-là, où ça finit un moment, où ça commence un moment, où ça met en exergue un texte. Et alors, de temps en temps, ça produit quelques effets, comme ça, j'espère. Voilà. Et donc on arrive à 2000, j'ai toujours peur de me tromper, 2181, c'est ça? Non, je ne sais plus, 2181 plus 19 varias. Dans les varias, il y a même des textes que, notamment les deux personnes qui ont travaillé avec moi la dernière année ont retrouvés, parce qu'à force de vérifier dans des notes et de se dire que ça a l'air de faire allusion à un article qu'on n'a pas, où est-il ? Et en allant chercher à la Bibliothèque nationale, en fouillant beaucoup, on a fini par retrouver des textes trop tard. Alors ils sont en varia et on explique qu'ils devraient se trouver ailleurs, mais on les a quand même mis à la fin en varia pour se dire qu'on avait tout. Mais on a aussi été chercher des textes. Enfin, moi, ça fait sans doute plus de 20 ans que je cherche des textes, en me disant qu'un jour, peut-être, ça pourra servir, ou bien que ça fait partie de mon travail. Au fond, je suis payé par l'État pour faire ça. Je considère que les fonctionnaires sont là pour faire leur travail. Et donc, j'ai accumulé pour la recherche la connaissance de Bazin. Et donc, à un certain moment, je l'ai mis en comme une base de données de la bibliographie des articles, mais une bibliographie qu'on pourrait interroger avec tous les textes cités, films cités. Donc, à un moment, on a pu mettre en ligne ça s'appelle base-in.com, et vous pouvez aller chercher. On va la remettre au propre après avoir fait ce travail dans quelques temps, hein, incessamment sous peu. Elle va devenir plus complète. Elle était juste à 95%. Maintenant, on va essayer de la rendre juste à 100%, petit à petit. Mais ça permet d'aller chercher... Enfin, c'est un meilleur index que celui qui est à la fin du livre. C'est plus pratique. Puisqu'elle repère elle repère aussi les articles qui sont les films qui sont analysés dans un article. C'est le principal apport de cette base de données. C'est que on peut savoir que Bazin a écrit sur Citizen Kane 150 fois, mais peut-être seulement en le citant. Mais on sait que pour 7 ou 8 articles, là, c'est une analyse complète de Citizen Kane. Voilà, on peut aller directement à l'article qu'il analyse. Alors malheureusement, on n'a pas pu aller jusqu'à intégrer ça dans les index de ce livre, parce que ça aurait été... Enfin, on serait mort, je pense, si on avait encore rajouté ça. Mais voilà. Donc, le livre, à la fin, si on fait le compte de tout ce qui a été publié, donc du vivant de Bazin, très peu en livre, 2 livres seulement, et puis quelques participations à des livres collectifs. Et ensuite, il y a eu des livres posthumes, donc le plus célèbre étant « Qu'est-ce que le cinéma ?» puisqu'il est sorti, le premier tome de « Qu'est-ce que le cinéma ?» aux éditions du Cerf est sorti de choix de textes de Bazin, fait par Bazin, est sorti 15 jours après sa mort. Et ensuite, sur 2 ans, on a sorti les tomes 2, tome 3, tome 4. Et alors, jusqu'en 1975, il y a eu 4 tomes avec des très beaux articles de Bazin. Très, très beaux, parmi les meilleurs, bien sûr. Mais aujourd'hui, il y en a d'autres qui vont apparaître comme les meilleurs. Il y en a bien d'autres, mais n'empêche, c'était des très beaux textes. Et ensuite, en 1975, les éditions de Cerf, malheureusement, ont fait dans celle-ci, donc. Voilà. On fait une édition en un seul volume, malheureusement en faisant un choix. Donc voilà, on a perdu beaucoup de textes. Puis après, il y a eu plusieurs livres qui ont été notamment faits par François Truffaut, qui devait beaucoup, vraiment beaucoup, à Bazin. Il le résume lui-même dans une de ses préfaces, et je l'ai résumé aussi dans l'introduction. En gros, Truffaut doit sa vie d'homme à Bazin, qui l'a aidé beaucoup de façon absolument incroyable. Et donc, une fois Bazin mort, Truffaut a été celui qui a œuvré à ce que les livres, à ce qu'on ne l'oublie pas, à ce que les livres soient publiés, soient traduits, voilà, fabriquer des livres avec les textes de Bazin. Malheureusement, ça n'en fait pas tant que ça. Et tout compris, avec tout jusqu'à aujourd'hui, si on les accumule tous, c'est-à-dire si vraiment on va les chercher en bibliothèque ou chez des soldeurs, mis bout à bout, ça fait moins de 10% de ce qui est publié aujourd'hui. Voilà. Donc, Bazin n'était pas... ce qui est d'ailleurs pas si étonnant, hein, mais tout de même, ce qui est publié aujourd'hui donc, est à plus de 90% non pas inédit, mais... redécouvert en quelque sorte, puisque tout ça a seulement été publié une fois entre 1943 et 1958. Voilà.
Voilà. Et alors pour le, oui, alors je, le problème de
deuxième partie de la question.
Voilà la deuxième partie de la question, c'est-à-dire que passer de cet ouvrage-là qui était connu jusqu'à vos publications, c'était surtout celui-ci qui circulait en fait. Hein, et voilà,
il y a aussi le Wells, le Chaplin, le cinéma de la cruauté, le cinéma de la libération à la nouvelle vague qui avait été fait dans les années 80, qui était un très belle anthologie avec des très beaux textes. Voilà, on les connaît tous plus ou moins, ça dépend des éditeurs. Hein. Les éditions des Cahiers du cinéma, finalement, nous ont fait faux bond. Ça a été un des grands éditeurs français de cinéma, mais malheureusement, ils ont été rachetés plusieurs fois et les éditions ont fini par disparaître intégralement. Actuellement, il n'y a plus d'édition des Cahiers du cinéma, ce qui est quand même un comble. C'est assez terrible. Ce projet d'ailleurs a été recommencé avec les Cahiers qui ensuite ont lâché l'affaire. Donc heureusement finalement, puisqu'on ne l'aurait jamais fait. Hein, et là, au moins, on l'a fait. Alors là, c'est pas tellement, quelqu'un le disait ce matin d'ailleurs dans le colloque qui a commencé, c'est pas tellement le fait qu'il y avait peu de textes, parce que le fait qu'il y ait peu de textes, du moment qu'il y ait des grands textes, et si on va les lire, si on les lit avec honnêteté, ou alors c'était peut-être le colloque il y a 2 jours, je ne sais plus là. Mais si on les lit avec honnêteté, au fond, il n'y a pas vraiment de problème d'interprétation de Bazin. C'est non pas la malhonnêteté qui fait le problème, c'est la simplification. Voilà, moi j'appelle ça le basinisme. Il y a beaucoup de basinistes au fond, et moi je préfère les basiniens, enfin ceux qui lisent le texte basinien, plutôt que de réciter la leçon du basinisme. Or la leçon du basinisme, c'est une leçon récitée, qui est issu, on ne sait pas très bien de quoi, de simplification pédagogique, de mauvaise foi d'ennemis dans les bagarres cinéphiliques, de toutes sortes de choses, qui fait que Bazin devient une espèce de Enfin, comme disait Lacan, hein, c'est un paillasson sur lequel chacun s'est essuyé les pieds. Quoi. Voilà. Donc il y a certaines idées de Bazin, c'est vraiment des paillassons où chacun s'essuie les pieds, c'est-à-dire dit absolument tout ce qu'il veut en disant, parce que c'est beau, hein. Cinéma impur par exemple, c'est une très belle expression. Et cinéma impur, bon, il y a des gens qui disent, ah oui, le cinéma impur de Bazin, citant Bazin, puis ensuite mettent absolument tout ce qu'ils veulent derrière l'impureté du cinéma. L'impureté, ce serait peut-être une impureté... Alors que Bazin dit des choses assez précises et assez simples et circonstanciées. Après, ça peut devenir toutes sortes de choses. Après, on a le droit, bien entendu. Mais l'attribuer à Bazin fait problème et simplifie complètement. L'autre exemple type, c'est le montage interdit, puisque Bazin, un jour, a écrit un article qui s'appelait « Montage interdit ». C'est évidemment une hyperbole. Le montage n'est pas interdit pour Bazin. On le disait encore il y a 2 jours avec les Italiens. C'est quelqu'un qui enseigne le cinéma et qui dit « Mais j'explique à mes étudiants... Comment est-ce possible qu'un, et moi aussi je me suis reconnu, je fais la même chose, comment est-ce possible qu'un critique de cinéma, qu'un écrivain de cinéma puisse dire qu'un film serait possible sans montage, enfin, ou que le montage n'a pas de sens au cinéma? Alors bien sûr, il y a toutes sortes de raisons qui expliquent, et on peut trouver aussi des endroits où Bazin dit « nous sommes dans une période de fin du montage, le montage a moins d'importance, etc. » Mais en réalité, Bazin ne peut pas être quelqu'un qui s'oppose aux théoriciens montagistes. Voyez, alors que la simplification pédagogique, c'est de dire « Eisenstein, le roi du montage, Bazin, contre le montage. » Voyez. Et ça, c'est complètement absurde. Et il suffit de lire Wells. Alors, vous voyez, Bazin est résumé souvent comme celui qui défend le plan séquence. Alors, avec raison, puisque moi, j'ai trouvé un jour dans un manuscrit, un des rares manuscrits et tapuscrits qui nous est parvenu d'un texte de Bazin, c'était le livre sur Orson Welles, qu'il invente l'expression plan-séquence. C'est-à-dire, c'est Bazin qui invente cette expression qui n'existe pas avant lui. Aucun historien ne l'a retrouvée, utilisée avant que Bazin l'utilise. Alors, je me suis rendu compte que c'était en 48 qu'il l'utilisait la première fois. Je croyais que c'était 49. Mais on voit très bien le moment où il met des guillemets en disant « on pourrait appeler ça le plan-séquence » et commence cette idée. Et ça, c'est après avoir vu Wells, rencontré plusieurs fois Orson Welles, sympathisé avec Orson Welles et regardé Wells travailler. Donc cette idée de Wells qui travaille et qui vient du théâtre et qui fait travailler des acteurs shakespeariens, qui vient de la radio et qui a envie de laisser s'exprimer les acteurs, et donc fait des plans longs, Bazin invente cette idée de plan-séquence en inspiré par la pratique de Wells, au fond. Donc c'est une, pour moi, ce n'est pas simplement Bazin qui invente ça, c'est une co-invention avec un praticien, avec une nouvelle pratique qu'on peut appeler moderne, une des modernités du cinéma. Bon, mais en même temps, le plan-séquence... Il ne faut pas dire qu'ensuite c'est William Wyler, ensuite c'est Rossellini. Bazin aime Rossellini. Rossellini est chrétien. Bazin est chrétien. Donc il suffit de braquer la caméra devant le monde et ne pas faire de mettre en route pour que le cinéma soit formidable et que le monde se révèle parce que c'est Dieu qui a fait le monde. Et ça explique que Bazin est contre le montage, aime le plan séquence. Et voilà. Tout ça mis ensemble, ça c'est absolument faux. À chaque fois, il y a des contradictions, il y a des exemples contraires. Et comme Bazin remet toujours en cause sa pensée, même si elle est très claire, sa pensée n'est pas contradictoire, elle est paradoxale. Et il joue beaucoup du paradoxe. Hein. Je pense que c'est vraiment un écrivain pascalien. C'est une des références de Bazin, c'est vraiment Pascal, Blaise Pascal. Hein. C'est vraiment cette pensée du paradoxe, du grand et du petit, etc. Il a une manière d'écrire par métaphore qui est très proche. Bon, ce n'est pas contradictoire, mais il y a remise en cause permanente. Et donc, il est impossible de décréter qu'il y a un dogme. Par exemple, voilà, j'ai souvent lu que Bazin était dogmatique. Ça, c'est, enfin, ce livre est là pour que chacun se fasse une opinion. Pour moi, Bazin, c'est l'inverse total du dogmatisme. Il ne peut pas être dogmatique, puisque ça, pour moi, c'est un penseur baroque. C'est-à-dire que ça ne cesse de filer ailleurs, hein, ça ne cesse de se retourner tout le temps. Et c'est comme ça qu'avance la pensée. Et chaque film vient remettre en jeu toute la pensée, puisque c'est quelqu'un qui n'écrit que sur les films qui sortent. C'est ça l'avantage, l'inconvénient sans doute, mais l'avantage aussi de cette pensée, à partir du moment où quelqu'un arrive à avoir une pensée cohérente et l'organiser, mais qu'en plus il reste un vrai critique d'art, c'est-à-dire un critique d'art qui ne voit que la pure modernité, ce qui sort. Voilà, c'est quand même très, 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 très intéressant. Et donc, Bazin, par exemple, ne connaît rien à l'histoire du cinéma. muet. Il parle un peu de Chaplin, comme tout le monde. Il parle ce qu'il dit sur le cinéma muet, c'est très pauvre. Il ne parle que du cinéma parlant. Parce que Bazin commence à parler des films qu'il voit à partir de 1944. Alors après, il y a les films de ciné-club, il a une petite culture comme on pouvait avoir à cette époque-là, mais c'était très petit par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, où ça circule beaucoup plus. Et en tout cas, il n'écrit pas à part pour Chaplin. Parce que Chaplin continue à faire des films. Et que Bazin est un des grands commentateurs, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais il est un des grands commentateurs de Chaplin, du Chaplin du Chaplin parlant, cinéaste, qui abandonne le personnage de Charlot. Donc il dit des choses très importantes parce que Chaplin produit des films du vivant de Bazin. C'est pour ça qu'il parle de Chaplin, y compris donc du Chaplin muet. Mais sinon, Bazin ne parle il parle de tout le cinéma, mais à partir de ce qu'il voit. Voilà. Voilà, donc oui, ce que ça devrait pouvoir aider à remettre en cause, ce sont des simplifications qui se sont souvent enquistées sur la personne de Bazin. Et je pense que ça devrait vraiment permettre
de retravailler, voilà. Recomprendre.
Et puis, par ailleurs, porter la contradiction. Hein. Moi, j'espère surtout que, voilà, s'il y a des études basiniennes, c'est ce que je dis dans l'introduction, j'espère qu'elles se pétrifieront le plus loin possible de nous. J'espère qu'elles seront riches et diverses et qu'on pourra se disputer, mais pas fixer des choses à nouveau. Quoi. Ça arrivera forcément un jour, mais j'espère pas trop tôt.
Et alors, en effet, ce qui m'a frappé en lisant certains textes, c'est le côté, justement, pas du tout pétrifié des textes et de l'écriture. Mm-hmm. Il y a vraiment des qualités. Enfin, il y a un style. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure. On peut peut-être y revenir parce que, notamment, là, on voit les articles écrits pour Le Parisien Libéré, qui sont vraiment incisifs et, peut-être pas toujours, mais en tout cas, il y a vraiment des moments d'écriture particuliers, mais aussi un style très différent dans d'autres types d'articles qui sont plus longs, plus développés. Et donc, il me semble qu'il peut y avoir un plaisir de la lecture. C'est-à-dire que je pense que les textes peuvent être appréciés pas seulement par les universitaires, pas seulement par les étudiants en cinéma, pour qui c'est important de connaître Bazin et ses écrits, mais qu'il y a vraiment une qualité d'écriture qui est appréciable par tous, je pense. Et peut-être aussi que c'est lié à une période d'écrit sur le cinéma aussi, qui est très vivante, peu jargonneuse aussi.
Ah oui. Si, elle l'est beaucoup à son époque, mais lui non.
Lui non, voilà, enfin jamais, hein, c'est vraiment.
Ah oui, elle l'est beaucoup parce qu'au fond, il polémique même sous un pseudonyme avec la filmologie. Donc il est contemporain de la filmologie. D'accord. Et c'est quand même une grande époque de jargon, la filmologie. La filmologie de Cohen C.A., c'est-à-dire l'entrée du cinéma à l'université, à la Sorbonne en France. Après, il y a eu une coupure très grande historique, mais ça a commencé en 1948, quelque chose comme ça, autour de 1947-1948. Là, c'est hyper jargonnant. Mais Bazin déteste ça. Alors, en même temps, moi, j'essaye d'expliquer pourquoi. Je crois avoir compris pourquoi, mais... Je l'ai compris aussi avec mon expérience, parce que moi aussi, l'éducation populaire m'intéresse. J'écris des livres pour les instituteurs dans école et cinéma, enfin pour école et cinéma, pour l'association Les Enfants de Cinéma, qui a des gros ennuis en ce moment, parce que le CNC délire complètement et va peut-être saboter quelque chose qui a plus de 20 ans d'âge et qui... Bon, enfin, c'est une autre affaire. On parlera de ça si vraiment ça se confirme. Mais avec cette expérience, je me rends compte que quand Bazin écrit pour une filmologie de la filmologie, c'est un article assez connu, sous pseudonyme, c'est pour se moquer assez élégamment et de façon assez amusante de Cohen C.A. et de tous ceux qui et de tous les gens qu'il fait venir pour fabriquer la science du cinéma. En fait, il s'en moque un effet sociologique de snobisme parisien, en gros. Donc c'est ça qui l'embête. Et on voit bien que ça ne lui convient pas parce que la façon de faire entrer le cinéma, enfin d'élever le cinéma à une respectabilité scientifique, passe par quelques étudiants de la Sorbonne. Donc pas par un événement d'élite, quoi. Alors que Bazin sait que lui, ce qu'il fait depuis 1944, c'est sur la masse de la population, des professeurs, des ouvriers, des instituteurs. Et que l'éducation populaire, c'est exactement l'inverse. C'est de la maternelle à l'université. Hein. C'est le slogan de l'éducation artistique et culturelle, de la maternelle à l'université. Et donc, c'est sur la population qu'il faut fabriquer quelque chose pour que le niveau de la population générale augmente, pas seulement sur une élite. Voilà, donc je pense que c'est pour ça qu'il... Alors après, donc, par le fait qu'il s'explique sans cesse oralement dans les ciné-clubs et dans les conférences, Bazin, effectivement, a un style qui n'est pas jargonnant. Donc la grande définition générale du style de Bazin, je crois que je l'ai encore entendu dire par d'autres, donc je pense qu'il y aura consensus là-dessus, c'est la clarté. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que c'est un style de clarté. Ce qui n'est quand même pas toujours donné. Ça ne veut pas dire que c'est facile à lire. Moi, je me souviens avoir écrit un jour que Bazin était comme une langue étrangère pour des étudiants, parce qu'il y a assez longtemps, j'avais fait des cours sur Bazin, et je me sentais obligé, matériellement, quoi, d'abord d'expliquer certains mots, et surtout certaines tournures grammaticales, ou certaines tournures de style, qui étaient difficiles à comprendre, même pour des choses assez simples, parce que c'est, au fond, il avait une érudition littéraire, et donc c'est pas un grand style, justement, c'est surtout pas un style jargonnant, au contraire, c'est justement un style extrêmement clair, mais précisément qu'on peut avoir du mal à comprendre aujourd'hui dans sa clarté même. Mm-hmm. Voilà. Donc ensuite, c'est un style complètement métaphorique. Alors j'ai fait un essai l'introduction. C'est je revendique le fait de faire un paragraphe ou plusieurs paragraphes sur la stylistique de Bazin, parce que j'ai remarqué que je trouve ça finalement insensé qu'on ne le fasse jamais. Et je pense que c'est tout à fait une chose d'avenir. Il faut, si on veut étudier la critique de cinéma, il faut faire de la stylistique des critiques de cinéma. Alors, il ne faut pas faire que ça, bien sûr. Mais c'est une stylistique très particulière parce qu'au fond, l'écriture de cinéma est une chose extrêmement étrange dans tous les écrits, chez les écrivains et les écrivains, parce que, précisément par la question des images. Parce que, d'abord... Il faut pouvoir évoquer un film. On sait que c'est un vieux problème de comment décrire un seul plan de cinéma par l'écrit. C'est très, très long, très difficile. Et l'art de la description est une chose fondamentale et très difficile. Donc déjà, l'art pour faire une bonne description, ne serait-ce que dans une analyse de film, il faut déjà savoir bien écrire. Donc le fait de savoir bien écrire, c'est très utile. Et puis, il y a des images dans les films. Et les images sont des images mémorielles, sont des images qui entrent dans l'imaginaire, qui fabriquent l'imaginaire. Et il y a des images dans la langue, ça s'appelle les figures de style. On les appelle les images. Et donc, c'est un jeu permanent, l'écriture de cinéma est un jeu permanent entre l'usage des figures, l'usage des figures de style, donc des images, et l'évocation des images. Et très souvent d'ailleurs, assez souvent, on s'aperçoit que les images... Dans les métaphores de Bazin, sont issues de quelque chose qui se trouve dans le film. Et je pense que ça, c'est largement inconscient. Je fais une ou deux études comme ça de choses qui me paraissent venir inconsciemment sous la plume de Bazin. Parce que tout spectateur fait cette expérience-là. Quand on raconte un film, on va le raconter d'une certaine manière, mais donc on va le verbaliser, donc on va le passer en mots. Mais très inconsciemment reviennent dans les mots des choses qui sont en images. Voilà, donc il y a des déplacements et des condensations, c'est un peu comme un rêve. Voir un film, ce n'est pas rêver, mais écrire sur un film, ça, c'est un peu les processus comme ça de mélange, de modélisation, de modulation de la réalité qu'on a vue, quoi, de ces images-là. Et c'est ça qui est très passionnant dans l'écriture de cinéma. Pas seulement chez Bazin, bien sûr, mais chez Bazin, ça passe vraiment par les métaphores. Le réseau métaphorique est complètement... démentiel. J'ai essayé de, non pas de les décrire toutes, mais de faire une liste des types de métaphores. Hein, métaphores chimiques, métaphores photographiques, métaphores christiques, métaphores religieuses, métaphores médicales, métaphores... J'ai essayé de faire une liste comme ça pour s'amuser, quoi, pour voir où ça menait. Mais elle est évidemment pas complète. C'est énorme. Voilà.
Non, alors merci beaucoup Hervé Joubert-Laurencin d'être venu nous présenter cette somme. On rêverait de pouvoir prendre 2 mois de vacances pour s'y plonger entièrement et voilà, sans attendre. Mais bon, on va être obligé de lire petit à petit.
Bah, Noël, voilà. Déjà.
Noël,
pour commencer.
Pas 2 mois. Merci beaucoup. Merci.